la concentration des médias représente-t-elle un danger pour la démocratie, le pluralisme de l'information? Ce sujet digne du bac philo, c'est donc pour l'instant une commission d'enquête du Sénat français qui s'en empare. Il faut dire qu'il est brûlant. Alors que la campagne présidentielle bat son plein, le pays voit aussi se profiler à l'horizon une méga fusion entre TF1 et M6, lancée il y a 2 mois dans une certaine discrétion. Cette commission, elle fait beaucoup parler d'elle cette semaine, je vous le disais, car depuis hier, elle passe sur le grill les milliardaires qui se partagent l'essentiel de la presse tricolore. Après Vincent Bolloré, elle entend aujourd'hui Bernard Arnault. Suivront également dans les jours à venir Xavier Niel, Patrick Drahi ou encore Martin Bouygues. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Alexis Lévrier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Reims, Alexis Lévrier, spécialiste de l'histoire des médias et auteur d'un livre qui s'intitule « Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse » paru aux éditions Les Petits Matins l'an dernier. Alexis Lévrier, le paysage médiatique français par rapport aux autres pays européens, d'abord, il est très concentré aujourd'hui, il est plus concentré si je puis dire?
Oui, alors ce phénomène de concentration, il existe partout, il y a des empires... dans le monde entier, dans l'Europe entière, Rupert Murdoch a un groupe très important, transnational, mais notamment présent en Angleterre. Tout le monde connaît le groupe de Silvio Berlusconi en Italie. Donc nous ne sommes pas du tout, il y a le groupe Bertelsmann en Allemagne qui était très présent en France. Mais ce qui est singulier dans ce qui concerne la France, c'est l'accélération de ce phénomène de concentration au cours des dernières années et surtout des derniers mois. En fait, finalement, depuis la crise du Covid, il y a eu une crise du groupe Lagardère, la fin en fait du démantèlement de ce groupe, accéléré par le Covid, et qui a conduit au rachat par Bolloré du JDD, de Paris Match, d'Europe 1, et d'autre part le désengagement du groupe Bertelsmann que j'évoquais à l'instant, qui fait que les types de presse qui détenaient des magazines hebdomadaires ont été repris par Bolloré, et M6 et RTL qui détenaient vont être repris certainement par Martin Bouygues, même si la fusion doit encore être validée. Donc c'est l'accélération de ce phénomène qui est surprenante, brutale et inquiétante, d'autant que les instruments de régulation dont on dispose commencent à dater. La loi sur le sujet date de 1986. Et on s'aperçoit qu'elle n'est absolument pas adaptée aux mutations que nous sommes en train de vivre.
Alexis Lévrier, si on en parle beaucoup, c'est donc parce que le phénomène s'accélère, vous venez de le dire. Est-ce que c'est aussi parce que, on a cette année à la présidentielle un candidat, en l'occurrence Éric Zemmour, qui se présente et qui est pour la première fois considéré comme un pur produit d'une télévision, justement, CNews en l'occurrence, l'une des chaînes de Vincent Bolloré?
Ah oui, tout à fait. C'est ce qui relie en fait Éric Zemmour à Donald Trump, qui lui-même est un candidat issu du paysage médiatique américain. Et dans le cas d'Éric Zemmour, c'est clairement... Alors évidemment, Vincent Bolloré a dit hier lors de son édition au Sénat que Éric Zemmour existait avant d'être exposé sur CNews. Et c'est tout à fait vrai. Hein. Il était journaliste au Figaro depuis 40 ans. Il a d'abord été exposé sur une chaîne publique dans l'émission de Laurent Ruquier et sur iTélé dans les années 2000. Donc ce qui a changé à partir de 2019, c'est qu'il a eu une émission entièrement construite autour de lui et où il a pu, sans aucune contradiction... développer son argumentaire et puis manier du révisionnisme, des contre-vérités qui n'étaient jamais rectifiées en plateau, alors même qu'il avait face à lui une journaliste ancienne membre du CSA, Christine Kelly, qui n'a pas du tout joué son rôle. Donc ce qui change avec Éric Zemmour, c'est qu'on a effectivement un candidat né d'une émission, né d'un empire médiatique qui est favorable à ses idées, parce qu'on voit bien que la ligne éditoriale de CNews et désormais d'Europe 1 est une ligne néo-réactionnaire et qui valorise cette parole raciste et xénophobe qui est celle d'Éric Zemmour.
Si je vous suis, Alexis Lévrier, le risque donc d'une telle concentration des médias, c'est quoi? C'est d'influencer l'opinion à travers des infos biaisées, d'empêcher la publication de certaines affaires peut-être, si on veut généraliser finalement, de dire de nuire à l'indépendance des médias et d'avoir des propos très partiaux?
Oui, bien sûr. Alors, il faut bien rappeler que les empires médiatiques, ils ne viennent pas d'apparaître. Il y en a en France depuis le XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle. Simplement, c'était des empires qui étaient créés par et pour les médias, si vous voulez. Ils étaient autonomes parce que les médias étaient un secteur très rentable. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, quand on rachète un média, ce n'est pas pour faire de l'argent avec les médias, c'est parce que ça offre du prestige.
Parce que ça, c'est pas rentable. Hein.
Voilà, c'est pas rentable et ça offre de l'influence et ça permet parfois de mener des combats culturels et politiques. Et de ce point de vue-là, Vincent Bolloré, il s'inscrit dans une histoire qui est marginale. Il y a tous les patrons de presse ne cherchent pas à influencer le cours de l'évolution politique. Avant Vincent Bolloré, on a eu Robert Hersant, on a eu François Coty dans l'entre-deux-guerres. et il s'inscrit dans cette filiation, sauf que lui, c'est vraiment en plus avec une ligne xénophobe, je le disais, et qui est en train de perturber la campagne électorale, puisqu'il a en quelque sorte fabriqué son propre candidat.
Une question encore, Alexis Desvrier, rapidement, il nous reste une petite minute. Pour certains, cette concentration des médias, c'est quand même finalement un mal pour un bien. Et en ce qui concerne le projet de fusion TF1-M6 hein, qui se profile à l'horizon, eh bien, Emmanuel Macron dit par exemple, en gros, hein, qu'on n'a pas vraiment le choix et que si on veut pouvoir affronter la concurrence des géants américains comme Netflix ou Amazon, eh bien, il faut bâtir des champions français. Ça, vous en pensez quoi de cet argument?
Alors cet argument, Emmanuel Macron, on ne peut pas lui retirer sa cohérence parce qu'il l'avait déjà lorsqu'il était ministre de l'économie. Dès 2014, 2015, il avait cette argumentation. Il fallait lutter contre les GAFAM, il fallait lutter contre Netflix qui commençait à s'imposer. Et donc il fallait bâtir des champions nationaux, c'était son expression. Le problème, c'est que même avec la fusion TF1 et M6, vous n'aurez pas un groupe qui sera d'une taille suffisante pour contrecarrer l'hégémonie de ces géants. Et par contre, vous allez avoir un problème énorme pour le pluralisme de l'information sur les chaînes hertziennes. Vous allez avoir un problème pour les recettes publicitaires qui vont être captées par ces deux chaînes et donc par le même groupe de médias. Donc tout cela pose, à mon avis, beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Pour lutter contre les GAFAM, on sait quelle est la solution. Ça passe par la régulation, ça passe par la loi et certainement au niveau européen, parce qu'au niveau national, on ne parvient pas à récupérer l'argent que préemptent et que prennent sur les journalistes, d'ailleurs sur le revenu, sur le travail des journalistes, les GAFAM. Donc il faut lutter contre les GAFAM par l'arme de la loi, de la régulation, mais pas par des champions qui, de toute façon, ne seront jamais de taille suffisante pour faire le poids face aux empires que sont les GAFAM et Netflix.
Merci beaucoup Alexis Lévrier pour cette analyse. Merci également d'avoir été avec nous sur RFI ce jeudi à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims et spécialiste de l'histoire des médias. Merci beaucoup.